Vous écoutez Graphite sur le 94.9 et il est 20h pétante. Alors, voilà, c'est Culture en placard qui commence. Merci à vous de nous retrouver chaque semaine le lundi à 20h pour notre émission hautement culturelle. C'est une émission un peu particulière ce soir, puisque donc la semaine dernière on vous avait promis une spéciale Salon du Livre. Il s'est avéré que le Salon du Livre a terminé, nous a pas attendu pour se finir, donc on n'a pas vraiment pu faire ce qu'on voulait faire. Et émission autrement plus spéciale, puisqu'on commence sans Guillaume, qui n'est pas encore là. Il a bêtement raté son train. En fait, c'est parce que bon, il a passé un petit week-end de Pâques. Sa copine travaille la nuit. Alors je vois immédiatement un sourire gras s'étaler sur vos visages ternes, mais en fait elle est infirmière. Et donc forcément, ils n'ont pas pu avoir beaucoup de temps en commun ce soir, enfin ce week-end. Et donc quelque part, peut-être que pour satisfaire leur insatiable appétence sexuelle, bref, bon, il a arrêté de arriver trop tard à Gare du Nord. Il a raté son train et il arrivera à 20h20 à la gare de Compiègne. Donc on lui fera une arrivée triomphale. Voilà. Donc ce soir, il n'y a pas de thématique. Donc ce sera une émission assez sympa, on sera pas trop speedé, assez ouverte. On parlera quand même un petit peu de jeux vidéo. On aura le point actualité qui s'annonce chargée, puisqu'on a des nouvelles très 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 fraîches, je crois. Et on aura une petite exclue. Où en fait on n'a pas de petite exclue. Si on a une petite exclue, on peut parler d'on a une interview d'un auteur de BD, d'un auteur. On en parlera plus tard. On parlera de BD, on parlera de série B aussi beaucoup. On parlera de films de série B. Vous avez peut-être entendu la semaine dernière. On en avait un peu vaguement parlé. On avait donc eu l'idée de creuser là-dessus. On s'est dit que ça ferait un truc intéressant avec des recommandations un petit peu plus sérieuses. Bref, on va bien s'amuser pendant une heure et demie. On est donc ensemble pour une heure et demie. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 et tout de suite on écoute un excellent disque. Il s'agit des Chemical Brothers, leur cinquième et dernier en date et non moins excellent album qui s'appelle Push the Button. C'est le premier extrait qui s'intitule Galvanize, avec un featuring qu'on peut qualifier d'excellent sans problème, de Q-Tip de Tribe Called Quest. Donc les Chemicals ont toujours été influencés par le hip-hop et là ils s'essayent, c'est la première fois qu'ils mettent un petit peu de vrai hip-hop sur leur album. Je vous laisse écouter ça tout de suite, c'est Culture en placard qui commence sur Graphite 94.9. Voilà, c'était les Chemical Brothers avec Galvanize en duo, enfin avec le flow inénarrable de Q-Tip, le rappeur des Tribe Called Quest sur Graphite 94.9. Vous écoutez Culture en placard, l'émission culturelle de Graphite, émission qui sort toutes les cultures du placard. Et tout de suite, on parle d'une culture accessible, on va dire, du moins à un certain public, puisqu'il s'agit d'une petite chronique sur les jeux vidéo que va nous réaliser Clément, notre chroniqueur jeux vidéo. Bonsoir Clément.
Bonsoir à tous, bonsoir Guillaume.
Merci. Alors on commence par l'actualité, les sorties
Les sorties de jeux et l'actualité.
Tout à fait, nous t'écoutons, c'est à toi.
Alors on va commencer par les sorties de cette semaine avec Devil May Cry 3, la suite des aventures de Dante, qui commence plutôt bien en France malgré un scénario à peu près absent, je dirais. Mais bon, ça on y reviendra un peu plus tard dans la revue de presse. Autre sortie très attendue cette semaine, celle de Time Splitter Future Perfect sur PS2, Xbox et GameCube. La suite du très péchu FPS de Free Radical Design s'annonce plutôt bonne, avec un mode solo beaucoup moins décousu que l'épisode précédent et un mode multijoueur toujours aussi long et délirant.
Ah, excuse-moi, je t'interromps, tu vas un petit peu vite. Celui-là, il est sur quel console? C'est sur quoi? C'est sur quelle console, ça, tout ça?
Devil May Cry 3, c'est sur PS2, j'ai oublié de le préciser, et Time Splitters Future Perfect sur PS2, Xbox et GameCube.
Donc c'est Time Splitters 3, en fait.
Time Splitters 3, exactement.
Ah, parce que j'avais le premier, j'ai joué aux deux aussi, il était très très bon avec un mode multijoueur absolument...
Le 2 est absolument délirant.
Ouais, clairement, ouais.
Ça valait vraiment le coup. Et là, apparemment,
je me souviens que dans le premier et dans le 2, on pouvait pas sauter, ce qui était quand même une faiblesse en termes de FPS. Je crois bien, non?
On pouvait pas sauter, mais on pouvait tomber, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ça pouvait toujours servir.
Bien, mais continue, excuse-moi.
Non, c'est rien. Donc, sorti toujours avec la sortie de Beautiful Joe 2, très très attendu, sur PlayStation 2 et GameCube. Alors, pour tous les gens qui n'ont pas eu la chance de jouer au premier, je vous recommande fortement de sauter sur le deuxième. C'est vraiment excellent, un style comics absolument inimitable, de l'action non-stop, c'est absolument délirant. Et enfin, sur PC, rien de notable cette semaine, si ce n'est la sortie de Warcraft 3 et de son add-on en version best-seller, c'est-à-dire à prix réduit. Donc pour les gens qui ne possèdent pas encore ce jeu mythique, je vous conseille fortement d'aller vous le procurer. Alors l'actu maintenant, avec quelques nouvelles de la Nintendo DS et l'annonce...
Ah, la Nintendo DS dont on parlait la semaine dernière.
Exactement.
Si vous avez
écouté. Et l'annonce du premier jeu de stratégie sur Nintendo DS, Age of Empires DS. C'est pas du tout une blague, pour le coup ça se transforme en jeu de stratégie au tour par tour. Alors la NDS va-t-elle être un repère pour tous les RTS ? Pour l'instant, on sait pas grand-chose. On sait que Advance Wars DS prend à peu près le même chemin, c'est-à-dire un jeu de stratégie au tour par tour. Alors, business maintenant. Electronic Arts, le géant américain, revoit ses objectifs
avant
à la baisse.
Avant de parler de vidéo, maintenant on parle de business.
Ah ouais, non, mais c'est le business game. Donc ils revoient leurs objectifs à la baisse, une baisse notamment due à la très mauvaise vente de jeux comme Need for Speed Underground 2, NFL Street 2 et FIFA Street.
Est-ce qu'il y a... C'est marrant parce qu'on parle beaucoup de la manière dont l'industrie du disque et l'industrie du cinéma souffrent du piratage. Est-ce que il y a une corrélation peut-être? Parce que je pense que les sites que tu as cités sont quand même très très bons. Le fait est que... Enfin, sont quand même... Je veux dire, ils ont moyen d'être beaucoup joués.
Oui, voilà.
Voilà, donc c'est des... Mais peut-être que c'est dû à... Non?
Bah, c'est-à-dire que sur les 60 millions de CD vendus en France, la SACEM considère que l'intégralité sert à pirater de la musique, alors qu'en réalité...
De CD vierges,
oui. Mmh. Alors qu'en réalité, il y en a plus de la moitié qui servent à pirater les jeux vidéo et les logiciels en général. Et l'industrie du jeu n'étant pas considérée comme culturelle, la SACEM ne reverse rien aux éditeurs de jeux.
Bah, c'est normal parce que la SACEM ne reverse rien aux éditeurs de films non plus, c'est que pour la musique.
Voilà. Enfin bon.
Donc, voilà. Bon, peu importe, continuons.
Donc, Sega annonce que Phantasy Star Universe, la suite de Phantasy Star Online 1, 2 et 3, qui sortira sur Xbox est quasiment terminé. Il règle les derniers problèmes de stabilité réseau et ce sera fini. Le site officiel du jeu est d'ailleurs déjà ouvert, vous pouvez y aller sur fantasystaronlineuniverse.com. Et enfin, rapidement pour terminer, Jowood Interactive, le studio qui avait édité Spellforce, recommence avec Spellforce 2 Blend of Perfection, qui est annoncé en développement. Le jeu devrait être terminé pour la fin de l'année 2005.
Voilà. Bon, donc c'était beaucoup d'informations dans très très peu de temps. J'espère que vous avez eu le temps de noter tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? On va vous faire gagner des disques. On va vous faire gagner notamment un disque qu'on va passer tout à l'heure. Donc évidemment, c'est pas la peine de vous précipiter sur votre téléphone avant de l'avoir entendu. Ça s'appelle Wax Taylor. C'est du hip-hop électronique instrumental. Un petit peu la DJ Shadow pour les gens qui ont du mal à situer ce style de musique. Ils sortent un petit mini-album. On pourrait parler d'un EP qui fait 8 titres. On va l'écouter tout à l'heure, mais je donne le numéro de téléphone pour que vous le notiez quand même. Appelez-nous au 03 44 23 49 08. Je répète, 03 44 23 49 08. Essayez, si possible, d'appeler pendant un disque, parce que là, on est donc en équipe réduite. Donc, il faudrait que quelqu'un puisse décrocher le téléphone et noter tout ça. Voilà, je crois qu'on continue à parler de jeux vidéo, en fait.
On va continuer avec la revue de presse.
Une revue de presse sur les jeux vidéo.
Une petite revue de presse, donc on va commencer.
Très spécial.
Par deux magazines, en fait, j'ai choisi Joypad et Console Plus.
D'accord, de haute qualité donc.
Voilà, non, c'est de la très très grande presse. Alors, Joypad ce mois-ci c'est quand même doté d'un supplément console portable assez bien foutu, même s'il n'est pas super objectif. Hein. En général, on casse du sucre sur la dos de la NDS et on sacralise la PSP. Enfin, bon, c'est pas trop grave.
Mais toi, tu dis ça parce que t'as une NDS et pas une PSP.
Oui, voilà. Aussi, mais enfin, bon, il y a quand même quelques commentaires qui sont pas super agréables. Je vous les retrouverai pas là comme ça en direct.
Donc,
bon.
Ça, c'est dans.
Dans Joypad.
Joypad.
Et ils parlent quand même de la Gizmodon. Alors qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre qui est la Gizmodon? C'est la nouvelle console portable, téléphone, disque dur, lecteur DivX, lecteur MP3, machine à café, ramasse-miettes, qui coûte la modique somme de 400€. Bravo les gars, ça c'est du boulot. Pour la suite du magazine, mis à part cet intéressant supplément, Joypad nous propose un dossier sur Condemn, le premier jeu sur les prochaines consoles de la prochaine génération. C'est un peu difficile.
D'accord.
Donc PlayStation 3, Xenon et Révolution.
Oula.
Alors, Xenon, c'est Microsoft.
Ouais.
Et Révolution, c'est Nintendo. PlayStation 3, c'est bien évidemment Sony. Un très très bon dossier, une bonne dizaine de pages remplies d'images et plein d'infos, donc c'est assez sympa à parcourir.
Donc toujours dans
Joypad.
Dans Joypad, hein. Moi j'essaie de recadrer parce que je...
Et on a aussi un très très bon test de Devil May Cry 3, qui est sorti cette semaine. Je crois que t'es un grand fan de Devil May Cry.
Absolument pas,
donc je me chie dessus, c'est bien.
C'est un petit peu japonisant, je crois, ça. Donc comme,
C'est très très bourrin, surtout.
C'est dont on parlait cette semaine, dont on parlait.
Voilà. En gros, c'est un Resident Evil où on enlève la lenteur. Donc ça bourrine dans tous les sens.
Bien.
Voilà, donc un test qui est pas mal et où on dit notamment que l'absence de scénario se fait quand même pas mal peser. C'est assez dommage. Et enfin un tout petit mot sur Baton Kaitos, qui est un RPG qui sort sur GameCube, si j'arrive à retrouver ma page. Je vais pas y arriver. Alors la page. Bon. C'est pas grave.
Si quelqu'un a vu la page de Clément, vous pouvez nous appeler au 03 44 23 49 08 et aussi nous envoyer un email. L'email malheureusement ne marche toujours pas. Alors pour les grands fans qui veulent absolument nous parler, nous donner leur avis sur l'émission. On a eu des petits problèmes d'email pour des raisons techniques qui très clairement m'échappent. Et je crois que c'est toujours pas réglé, mais ça devrait l'être sous peu. Donc voilà, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. N'hésitez pas à réessayer jusqu'à ce que ça passe. Et une fois que l'email sera en place, peut-être pourquoi pas une petite rubrique courrier des auditeurs qui nous permettra de lire les meilleurs morceaux ou des extraits de vos réactions. Voilà, donc l'email, je le répète, parce que, enfin je le répète, je le dis, parce que je l'ai pas dit. Je l'ai dit la semaine dernière, mais ça compte. Bref, l'email c'est culture en placard tout attaché at graphite avec un F, graphite.fr.fm. Voilà, donc quelqu'un a trouvé la page de Clément.
Je viens de la retrouver en fait.
Bravo.
Voilà, donc c'est juste pour vous, pour resituer le scénario de Baten Kaitos qui est un RPG. Donc, alors Kalas va croiser sur son chemin la jeune et innocente Xela et qui vont se retrouver entraînés malgré eux dans une insurrection contre l'Empire du Mal. C'est marrant, ça me rappelle plein d'autres trucs.
Ouais.
Voilà, donc Joypad, globalement assez mauvais, hein, donc à la poubelle, hop, voilà, c'est réglé. C'était vraiment super, super, super pas bon.
Bien, donc on s'attend au meilleur avec Console Plus.
Alors Console
ouverture
Plus.
Ouverture sur Star Wars.
Voilà, ouverture sur Star Wars. Alors Console Plus, un super bon dossier ce mois-ci sur Star Wars épisode 3,
il
aussi bien le
page.
Film que les jeux. Voilà.
Vas-y,
il y a
sorti
plein d'images. Il y a aussi les images de Star Wars épisode 3 Battle of Wookiees, qui est la suite de Star Wars Galaxies. Alors ça, c'est un MMORPG basé sur l'univers de Star Wars.
Mm-hmm.
Donc pas mal de choses aussi assez intéressantes. Il y a un très très bon dossier là par contre sur la NDS et la PSP. Beaucoup plus objectif que celui de Joypad qui était un peu lamentable.
Bien.
Et donc en vitesse pour parler du test, voilà, de l'excellent test de Splinter Cell 3 Chaos Theory,
qui vaut
aussi le coup d'être lu. Simplement pour cette petite phrase, il ne reste plus qu'à évoluer sur le terrain. À partir de ce moment-là, vous commencerez à ressentir une légère érection. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal.
Bien, bon, c'est là que ça prouve évidemment encore une fois que le public des jeux vidéo est quand même extrêmement masculin. On est en train de travailler avec Guillaume, qui pour l'instant doit être quelque part dans un train du côté de quoi, Mont-Sainte-Maxence à cette heure-ci. Il va
peut-être
pas tarder
bon
à arriver en même temps. Hein. On parlait de ça. On s'est dit qu'effectivement, on va essayer d'avoir peut-être une chroniqueuse, une rubricarde féminine pour nous faire quelque chose d'un petit peu plus ouvert, parce que l'émission sur les jeux vidéo, quand même, les dernières fois s'adressait quand même à un public qui malheureusement reste encore assez masculin, et donc c'est cette petite phrase, cette petite citation de Console Plus le montre bien. Voilà, tout de suite on écoute Wax Taylor du hip-hop électronique instrumental, très 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 bon. Le titre s'appelle Que Sera, c'est extrait de leur EP, de leur un CD 8 titres, un mini album, Que Sera Where My Heart's At featuring The Others. Et donc vous pouvez gagner ce disque s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler au 03 44 23 49 08. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 FM, c'est Culture en Placard, et tout de suite Wax Taylor avec Que Sera.
Culture en Placard, le lundi 20h21 sur Graphite.
Voilà, c'était les excellents Wax Taylor avec Que Sera, un truc un peu nouveau, assez frais, extrait de leur EP mini-album de 8 titres du même nom, que vous pouvez gagner, je suis très surpris de ne pas avoir eu de coup de fil, en nous appelant au 03 44 23 49 08. Voilà, ça fait toujours quand même un CD gratos, quoi, enfin je veux dire... Enfin bon, faites ce que vous voulez, après tout, je force personne. Tout de suite, actualité, tout de suite, information, tout de suite, un petit peu de sérieux. Je commence à embrayer sur une voix extrêmement radiophonique. Nous retrouvons Michael Vinicky pour son point d'actualité. C'est à toi, Michael.
Guillaume, merci pour ce fabuleux lancement. Il est 20h24, vous écoutez Graphite 94.9, et donc, ça va parler un petit peu d'actualité avec des informations qui nous sont parvenues il y a quelques instants. Un séisme d'une magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter ouverte aurait frappé l'Indonésie aux alentours des 18h heure locale en France. On se rappelle du tsunami qui avait frappé déjà l'île de Sumatra avec ses 273 000 morts en décembre dernier. Bref, une alerte au raz-de-marée a été lancée dans la région. Les géologues estiment qu'il s'agit sûrement d'une réplique, et d'ici 1 heure à 1h30, un risque de raz-de-marée est prévu dans la région. Commençons par l'actualité internationale, et bien sûr nous reviendrons sur ce raz-de-marée si nous avons de plus en plus d'informations durant l'émission. Donc l'actualité internationale avec tout d'abord l'état de santé toujours aussi précaire de deux grands hommes, j'ai bien sûr nommé le prince régné de Monaco et Jean-Paul II. Le premier a subi hier soir, une dialyse rénale au centre cardio-thoracique de Monaco à l'âge de 81 ans. La santé du prince est passée d'un pronostic vital extrêmement réservé il y a 48 heures à très réservé puis réservé aujourd'hui. Le souverain est conscient, mais sous assistance respiratoire, il avait été hospitalisé le 7 mars pour une simple surinfection bronchopulmonaire avant d'être transféré mardi dernier en réanimation après des complications cardiaques et rénales. Quant au Vatican, le pape, et contrairement à ses habitudes, n'est pas apparu ce lundi à la fenêtre de son bureau au Vatican. Désarroi donc pour l'Église catholique après la mise en scène de l'apparition du souverain pontife que l'on n'a pas vu un instant de face. Les télévisions publiques italiennes relèvent d'ailleurs aujourd'hui que même si le pape est toujours en lucide, il n'est plus en condition de gouverner aujourd'hui.
Enfin, en même temps, il a. Ça fait déjà un bout de temps que. Enfin, bon, bref. Je suis désolé, Jean-Paul. Hein. Je sais qu'on s'était vu au Queen l'autre soir. On avait bien sympathisé. Si tu nous écoutes. Bien, on va avoir des emmerdes là. Excuse-moi, Michael, continue.
Merci, Guillaume, pour ton information ô combien intelligente. On en parle peu. Et c'est pourtant aujourd'hui une des pires épidémies de fièvre de Marburg. Connue à ce jour qui frappe l'Angola. Et oui, le Marburg, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Il s'agit d'une fièvre hémorragique qui se transmet par contact avec des fluides corporels d'une personne infectée. Cette épidémie s'est déclarée il y a maintenant 6 mois en Angola et s'est particulièrement aggravée ces 3 dernières semaines selon l'Organisation Mondiale de la Santé. On compte aujourd'hui 122 morts selon un bilan du porte-parole du ministère de la Santé, Carlos Alberto, qui s'exprimait aujourd'hui. La précédente épidémie d'une telle fièvre, qui est un virus apparenté du redoutable Ebola, avait fait 123 morts entre 1998 et fin 2000. En République démocratique du Congo. Notons en tout cas que la surveillance épidémiologique a particulièrement été renforcée ces derniers jours par l'OMS. Enfin, en Irak, le Jordanien Abu Moussab al-Zarqawi, le terroriste le plus recherché d'Irak, était encerclé par les forces irakiennes selon le ministre irakien de l'Intérieur. L'opération est en cours. A-t-il confié lors d'une conférence de presse en début d'après-midi. Depuis, aucune nouvelle. France, passons au social tout d'abord avec Renaud Dutreil, le ministre de la fonction publique, qui tente d'apaiser la grogne des fonctionnaires. Il leur présentera demain ses propositions en matière de revalorisation des salaires pour 2005 et 2006. Selon le quotidien aujourd'hui en France, Le Parisien, paru ce jour, le ministre pourrait annoncer une revalorisation à hauteur de 0,8 à 0,9% des salaires, ainsi que le versement d'une prime exceptionnelle de 1,2% pour 260 000 fonctionnaires bloqués tout en haut de leur catégorie. Notons que Gérard Achiri, qui est un des représentants du syndicat FSU, déclarait avoir constaté un ton nouveau du gouvernement depuis la journée de mobilisation du 10 mars, un ton qui devait être à présent concrétisé. Vous savez enfin que Jacques Chirac est en ce moment en déplacement au Japon. Jacques Chirac qui est aujourd'hui monté au créneau devant un parterre de patrons français et japonais en faveur du développement durable. Je propose l'alliance de nos deux pays pour relever les défis du développement durable, une alliance politique, mais aussi une alliance scientifique et industrielle, a-t-il déclaré. Un chef d'État qui sait décidément joindre l'utile à l'agréable. On connaît en effet le goût prononcé pour Jacques Chirac, pour les combats de sumo et la culture japonaise. Passons à l'actualité sportive de ce week-end à présent, et tout d'abord le Mondial de football 2006. La France ne parvient décidément pas à s'imposer et doit se contenter d'un sixième nul à domicile, peut-être un lapsus révélateur. En tout cas, un sixième nul à domicile contre la Suisse ce week-end. La France qui est pour l'instant
surtout contre la Suisse, quoi. Enfin, la honte, quoi.
Il y a des limites, quoi.
Information encore.
Clairement.
Bien intelligente, Guillaume.
Non, mais oui, effectivement. Moi, j'essaie d'infiltrer insidieusement un petit peu de décalage dans ton flash. Ça ne te plaît pas du tout. Je ne t'interromprai plus à l'avenir.
Non, mais écoute, c'est.
Je sais pas, moi, le football, quelque part, je m'y intéresse autant qu'une vache peut s'intéresser à un patin à roulette, donc a priori.
Écoute, moi je commence à m'intéresser au football et je suis à chaque fois.
Subjugué par les efforts désespérés de nos. Oh!
Et voilà, Guillaume arrive en plein milieu du Flash Actu.
Fabuleux, merci la SNCF.
Merveilleux.
Donc ce sont, j'avais promis que je le placerais, les aléas du direct. Donc Guillaume, j'imagine que tu es arrivé en retard parce que tu étais complètement pris dans la relecture de Spinoza, de tout Spinoza qui t'a occupé tout le week-end.
Bien évidemment, bien sûr.
Mets un casque là, le casque de Clément, il ouvre son...
Vous allez voir,
retire ta redingote.
Je sors actuellement mes petites lectures de mon sac.
Voilà.
Et vous allez pouvoir goûter un petit peu au niveau intellectuel de ce que je lis, donc...
Fabuleux.
A été donné pour
c'est un magazine télévisuel dont on n'a pas dont on n'a pas de droit de donner le titre.
Et en couverture, Astrid Veillon, miam.
Bien. Bon, on reprend tout de suite la fin du flash info voilà. De Mickaël. Actualité sportive, donc la Coupe du Monde 2006.
La Coupe du Monde 2006, donc la France qui est pour l'instant deuxième de son groupe avec 9 points pardon, derrière l'Irlande et dont le prochain déplacement aura lieu mercredi en Israël. L'Israël qui est toujours troisième avec 9 points. C'était ce week-end le championnat du monde de cyclisme à Los Angeles. Alors, est-ce que vous êtes passionné de cyclisme par ici? Je ne sais pas.
Non, pas. Je crois qu'on a un champion de l'épreuve reine, qui est la vitesse individuelle, qui est en train de continuer à être champion.
Voilà, qui s'appelle Michael Bourguin, effectivement. Alors, il ne continue pas vraiment d'être champion. Il a eu quand même l'argent, en complément de l'or de Clara Sanchez à l'épreuve de Kérine. Donc, les Français qui quittent ce championnat sur une bonne note, après pas mal de déceptions quand même les trois premiers jours. Et on termine avec le handball. Au terme du tournoi de Bercy, c'est une équipe de France en pleine reconstruction qui s'impose après le départ de nombreux anciens. 30 à 26, c'est sur ce score que la France s'est imposée contre l'Allemagne. On retiendra de cet événement l'émotion qui a suivi l'hommage rendu aux trois nouveaux retraités internationaux. J'ai nommé Jackson Richardson, qui est sûrement le plus médiatique de tous, Guiri Quimbadec et Grégory Anquetil. On va peut-être terminer sur une petite brève insolite.
Ah, une brève insolite.
Oh oui.
Oh là là. Une petite brève insolite. Alors j'imagine que vous avez tous le souvenir de cette scène mémorable des Bronzés Fonds du Ski avec Michel Blanc sur son télésiège en train de chanter « Quand te reverrai-je ». Eh bien, un peu moins drôle cette fois-ci.
Voilà. Non, ça suffit. Non, mais je vais
qui commence à chantonner ici.
Et vous aussi, auditeur, toi, le jeune, derrière ta radio, derrière ton transistor, ton poste à Guélène, tu peux entonner « Quand te reverrai-je ».
Tous ensemble, « Quand te reverrai-je ». Donc, un peu moins drôle, deux skieurs qui ont tenté l'expérience malgré eux, qui se sont retrouvés à devoir passer la nuit sur un télésiège aux Arcs 1600. Le personnel des remontées mécaniques a en effet fermé l'installation sans constater la présence des deux malheureux.
Bien.
Alors, ces derniers ont passé 15 heures immobilisés sur la remontée, à une quinzaine de mètres au-dessus du sol. En plus, il n'y avait pas beaucoup de neige en dessous, ils ne pouvaient pas sauter. Ils ont bien essayé de se signaler aux dameuses qui passaient par là avec des flashs de leur appareil photo, mais le brouillard a eu raison de leurs appels. Rassurez-vous, ils ne souffrent que de légère hypothermie. Heureusement, les températures ne sont pas descendues en dessous des moins 2 et moins 4 degrés. En tout cas, des skieurs finalement très philosophes, puisque à leur descente du télésiège, ils ont déclaré ne pas porter plainte, ne pas savoir en tout cas s'ils allaient porter plainte contre la station, et surtout dire l'erreur est humaine. Voilà.
Tout à fait, je pense que a priori, enfin ils disent ça maintenant, mais ça va nous faire un beau procès après. Je suis extrêmement surpris parce que j'ai entendu ça maintenant à la radio, une radio concurrente. Mais d'information,
c'était
bien, on ne citera pas le nom, mais bref. Et j'étais quand même assez surpris qu'effectivement ils aient pas utilisé leur téléphone portable.
Alors peut-être que ça n'utilise pas de téléphone portable. Parce
mais
que
aujourd'hui,
moi, j'aurais été à leur place, j'aurais appelé.
Parce que a priori, maintenant, j'imagine que les stations font tous plus ou moins des efforts. Enfin, pas les stations, mais les opérateurs et les, enfin, conjointement des efforts pour avoir de la couverture sur Europa, parce qu'à chaque fois, il y a des crétins qui sont là. Ah, on se retrouve avec les sièges en bas de la bleue.
J'ai pu avoir, en tout cas, il n'avait pas.
Ouais, non, c'est très. C'est la petite anecdote marrante de ce week-end Pascal qui se termine.
Voilà.
Enfin, marrante.
Les deux skieurs, parce qu'ils ont passé leur temps à essayer de se réchauffer, à essayer de se taper mutuellement pour pas s'endormir. 15 heures à moins 2, moins 4 degrés.
Tout cela nous rappelle cette citation de Kierkegaard, qui fait le malin tombe dans le ravin. Bien, tout de suite nous écoutons un disque absolument, comment dire, les mots me manquent devant ce disque à la couverture que vous voyez, hein, un petit peu, on pourrait parler de psychédélique, et j'utilise ce mot vraiment parce qu'il me plaît. Il s'agit de Rubinsteiner, qui était en concert à l'Élysée-Montmartre le 10 mars en première partie d'un groupe que j'aime beaucoup, Death in Vegas, qu'on écoutera tout à l'heure. Rubinsteiner en sélection Victor de la quinzaine sur Graphite, sur son dernier album. Il change de formation à chaque album. L'album s'appelle Drum Major. On écoute un titre de 4 minutes 05 qui s'appelle Murderation. Voilà, c'est Graphite 94.9. C'est Culture en placard. Rubinsteiner tout de suite à la radio.
Culture en placard, le lundi 20h21 sur Graphite.
Et voilà, nous sommes de retour sur Graphite 94.9 pour Culture en placard, émission culturelle. Nous venons d'écouter Rubinsteiner, un artiste français d'ailleurs, hein, avec son extrait de son très bon dernier album qui s'appelle Drum Major, sélection Graphite de la quinzaine. Le titre c'est Murderation. Et tout de suite Olivier, notre ami Olivier, chroniqueur bande dessinée de Culture en placard, qui nous parle en lien avec l'interview exclusive de Loulou, l'auteur de Tessa, qui vient nous parler donc de Tessa, une bande dessinée relativement récente, je crois. Olivier.
Bonsoir à tous. Donc je vais parler de Tessa ce soir, donc c'est pas vraiment récent, mais la sortie du tome 2 est toute récente. Donc le tome 1 de Tessa est paru l'année dernière en juillet 2004. Alors pour faire le pitch de la série, Loulou le fera aussi bien que moi dans quelques instants, mais c'est l'histoire d'une jeune adolescente de 14-15 ans qui chaque nuit fait des rêves un petit peu spéciaux, à savoir qu'elle s'entraîne ou elle vit des aventures des mondes fantastiques et de science-fiction, jusqu'au moment où la fiction dépasse la réalité et dans un de ses rêves, elle se retrouve propulsée dans un truc psychédélique. Je dis ça parce que Guillaume a vu la BD ce midi et les
J'ai feuilleté la bande dessinée ce midi et je dois avouer que c'est enfin moi j'aime bien. Moi qui ne suis pas porté sur les bandes dessinées en général, j'avoue que j'aime bien. Pouvoir que l'héroïne se prête au plaisir des yeux.
Oui, doucement, Guillaume, elle n'est pas majeure encore.
Oui, malheureusement. Oui. Et donc, ça, si tu nous écoutes sur ta feuille de papier glacé, j'avoue que je t'ai beaucoup regardé, notamment. Il y a quand même premier tome, quatrième page, une scène où elle prend sa douche. Quoi. Voilà.
Oh, c'est très très léger, on voit rien, Guillaume.
Oui, non, mais bon, ouais. Bon, bref. Continue, allez.
Je continue. Et donc, un soir, elle se retrouve propulsée dans sa dernière épreuve de sélection pour devenir agent intergalactique. Alors là, les agents intergalactiques se chargent de la paix et de la prospérité dans le monde, dans l'univers connu. Bon, il y a une petite astuce scénaristique qui dit que l'univers, le réel univers n'est pas celui que l'on croit avec Einstein et tout ça, donc ça permet de s'absoudre, s'absolvier. On s'en fiche.
Bien. Tu veux ta paire d'aviron là?
Oui,
je commence à ramer un peu.
Je veux bien, je voulais dire qu'il ne faut pas s'inquiéter s'il y a beaucoup de races. Extraterrestres, si on ne fait pas très attention à la physique quantique et tout ça, donc les notions scientifiques sont résolument décalées.
D'accord.
Et c'est le maître mot de la bande dessinée, décalé.
Il y a des jeux de mots que, si vous voulez, même moi, je n'oserais pas faire.
Tout à fait. Ils sont décalés du début à la fin, que ce soit dans les jeux de mots, que ce soit dans les noms de personnages, que ce soit dans les...
Par exemple, il y a un robot qui est là pour aider, qui est un maître, enfin un majordome, enfin un steward.
Voilà.
Enfin, bref, c'est pas un steward parce que c'est pas dans un avion, mais bon bref. Et donc le robot s'appelle Rob Stewart. Et là, on en reste bouche bée.
Là, c'est la constellation dans le studio, mais bon, personnellement, je suis mort de rire.
Mais c'est vrai qu'on a eu l'auteur au téléphone, donc on exclut jeudi dernier. L'interview va passer dans quelques instants sur Graphite 94.9. Et effectivement, il a l'air assez porté sur de l'école.
Et donc l'actu, c'est qu'il y avait une avant-première au salon de la BD, au salon du livre de Paris, non pas de la BD.
Lapsus révélateur.
Lapsus révélateur, encore une fois. Et donc, en avant-première, il a permis de tester un petit peu les premières réactions du public. Elles sont très très bonnes sur le tome 2, aussi bonnes que sur le tome 1. Je recommande à tout le monde d'aller acheter cet album de bande dessinée Tessa par Nicolas Mitric, Louis et l'Amiran en couleur chez Soleil. Guillaume en panique.
Pas du tout, non, c'est chez Soleil. Soleil, il y a des heures de bande dessinée.
C'est chez Soleil. Il faut savoir, il y a un tirage collector qui est édité par deux librairies qui sont Folle Image à Lille et...
Machin Bulle.
Et Galerie des Quai
des
Bulles.
Quai des Bulles. Non.
À Paris.
Rue des Bulles.
Non, Quai des Bulles.
Avenue des Bulles.
C'est pas grave. Quai des Bulles, il me semble.
Berge des Bulles.
Non, Quai des Bulles.
Ruelle des Bulles.
Le tirage collector est à 250 exemplaires. Donc 125 par librairie. Il coûte un tout petit peu plus cher, mais est extrêmement. De bonne, très bonne facture, même. Sinon, il y a une petite exclue pour le tome 3. Il y aura un 2B. Donc les connaisseurs de 2B savent que côté gauche, la planche est en crayonné, côté droit, elle est en encré.
C'est un petit peu comme l'album de Daft Punk où en fait ils sortent aussi les démos pas finis.
Voilà, un petit peu. Donc ça permet aux gens qui ne connaissent pas trop la BD de voir un petit peu le.
Comment ça se fait? C'est assez intéressant d'ailleurs, aller sur le site dont on donnera l'adresse un petit peu plus tard, tout à l'heure, vas-y.
Tout de suite, c'est le site officiel de Tessa, c'est www.tessa.fr.st.
Voilà, donc lui aussi redirigé par Ulimit comme Graphite.
D'accord.
On se dit au passage. Je dois avouer, donc sur le site, c'est assez intéressant parce que vous pouvez voir l'évolution entre le storyboard, ensuite ça passe en crayonné, puis une version ancrée, et ensuite c'est colorisé par une autre personne.
Voilà.
Et moi qui ne connais absolument rien au processus de fabrication de la bande dessinée, j'avoue que j'ai beaucoup appris.
Voilà, donc c'est un site culturel qui va te permettre de faire la BD.
Voilà, voilà. Bon, bah écoute, tout de suite, on va écouter l'interview.
L'interview ou le disque?
Non, on va écouter l'interview. D'accord. Voilà, j'ai décidé qu'on écoutait l'interview et qu'on sucrait le disque des 2220s parce qu'on est un petit peu en retard, malgré D'accord. le fait que cette émission pourtant n'est pas vraiment de contenu extrêmement dense. Donc tout de suite, c'est, comment s'appelle-t-il, Stéphane Louis?
C'est Stéphane Louis qui n'aime pas son prénom, donc on l'appelle Louis tout court.
Et alors Olivier l'appelle Loulou. Donc,
moi, j'appelle
ils
Loulou
ont un degré d'intimité sur lequel je n'oserais pas m'avancer, mais j'ai été assez perturbé par ça. Je crois qu'il connaît depuis un petit bout de temps et on précisera qu'il est la semaine prochaine, non, dans 10 jours.
Le 9 et 10 avril,
le week-end
BD de Compiègne.
Festival BD de Compiègne, dont Olivier, accessoirement, se trouve être le président. Rien n'est innocent dans Culture en Placard. Vous êtes écouté Graphite et tout de suite, interview exclusive.
Bonsoir Louis et bienvenue dans l'émission Culture en Placard, l'émission qui sort toutes les cultures du placard. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît, Louis?
Donc je suis donc le dessinateur de la série Tessa Agent Intergalactique, donc avec Mitric au scénario et l'Amiran au dessin, donc une série qui est chez Soleil. Et donc c'est mon deuxième tome, mais avant donc j'étais un ancien prof d'électrotechnique en LEP hein, et qui a démissionné de l'éducation nationale il y a 5 ans. Voilà.
T'as commencé à dessiner à quel âge à peu près?
Depuis que je suis tout petit. Et depuis que je suis tout petit, vraiment, c'est vraiment ce qu'on appelle le rêve de gosse, quoi. J'ai envie de faire de la BD, mais je voulais pas faire d'école par contre. Je m'étais dit que ça prendrait le temps que ça prendrait, que ce serait plus long que les autres, mais j'irai par mes propres moyens, quoi.
Donc avec tes compères Nicolas Mitric et Sébastien Mirand, tu réalisais ça. Est-ce que tu peux faire le pitch de la série, s'il te plaît?
Alors Tessa, donc c'est une nana ultra speed, donc qui a bientôt 16 ans, qui en fait pendant le tome 1, donc on la suit un petit peu pendant ses rêves, elle fait des rêves de science-fiction où elle est en train de sautiller dans tous les sens et d'avoir des missions, et il se trouve qu'en fait ses rêves n'en sont pas et qu'elle se retrouve recrutée pour être agent intergalactique. Et alors donc le ton, c'est une série donc de science-fiction, donc très très speed, qui a beaucoup de personnages secondaires, on visite beaucoup de lieux, etc., mais avec un ton enfin qu'on veut volontairement léger et si possible déconnant. Donc nous on se marre beaucoup en le faisant et on espère que c'est le cas aussi pour les gens qui le lisent en fait.
Oui, parce que enfin il y a pas besoin d'être médium pour voir que tu t'éclates carrément sur la série.
Ah oui, complètement, mais c'est exactement ce que je voulais dessiner depuis que j'étais gosse, quoi. C'est une nana dans l'espace qui sautille de partout avec beaucoup de mouvements et c'est exactement ce qu'il me fallait, quoi.
Être agent intergalactique, ça t'aurait fait triper toi?
Ah moi non, moi j'ai non j'aime pas, parce que j'aime pas avoir des comptes à rendre à qui que ce soit. J'aime bien avancer, essayer de faire du mieux que je peux, si possible aider des gens, mais sans qu'on me dise exactement où je dois aller, quoi.
Alors sans vouloir être des magots, enfin Tessa fait partie des albums que j'ai réellement plaisir à lire durant l'année 2004.
Oh bah ça fait plaisir.
Et je crois que je suis pas le seul, parce que quand même Tessa était épuisée pour la première édition.
Ouais.
Ça représente combien d'albums à peu près?
Bah c'est-à-dire qu'en fait le premier tirage était de 10 500 exemplaires, et en fait l'éditeur nous avait appelé, donc il est sorti au mi-juillet, et donc il a relancé en fait un tirage à peu près 3 semaines après, donc courant août. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas été épuisé en 3 semaines. Hein.
Oui,
c'est pas
sûr.
Ça, mais c'est-à-dire que vu les demandes de réassort qu'il y avait au niveau des libraires, on savait que ça finirait par être écoulé. En fait, la deuxième édition, on a commencé à aller voir dans les rayonnages vers début novembre.
D'accord. La réédition, ça fait combien de tomes?
Normalement, le deuxième tirage a été de 5000 exemplaires. Mais là, il y a eu encore un nouveau tirage, vu que le tome 2 qui est sorti mardi 22 mars, histoire d'avoir du stock, il y a encore un tirage qui a été fait sur le tome 1. Ça a bien marché. On a eu du bol. Ça a bien marché, vu le nombre de nouveautés. On est plutôt content.
Encore plus fort, Tessa accumule les nominations et récompenses, dont la sacro-sainte nomination Angoulême dans la catégorie 9-12 ans. Alors même si à mon avis, bon, c'est pas vraiment la catégorie qui était la plus appropriée pour Tessa, j'imagine que le jour de la nomination, ça va être la jubilation dans la Tessa Team.
On a eu 2 prix en fait sur le tome 1. Donc un au Festival BD de Maison Lafitte, qui est le prix Nemo, qu'on va avoir le début avril, et puis un à Festival Belge. Et puis bon, évidemment, la nomination à Angoulême dans le prix 9-12 ans, bon, c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout, mais même si ça avait bien marché tout ça, Angoulême c'est quand même ce qui se fait de mieux, quoi. C'est vrai que le fait d'être nominé à Angoulême, déjà, même on n'a pas eu le prix, mais rien que le fait d'être nominé, c'était déjà énorme.
Donc si je ne m'abuse, le week-end dernier, le tome 2 de Tessa était en avant-première sur le Salon du Livre de Paris. Dans quel état d'esprit tu te situais? T'étais plutôt serein, avec une certaine appréhension pendant cette avant-première?
C'est même pas spécialement au niveau de l'avant-première, parce que le Salon du Livre, c'est pas comme des festivals comme Angoulême, par exemple, vraiment qui sont spécialisés BD, etc. Mais c'est par rapport plutôt à la sortie du tome 2 en lui-même, c'est vrai que j'avais énormément le trac, en fait. Bah, c'est-à-dire que vu que le tome 1 a super bien marché, bah du coup sur le tome 2 j'avais un super track, quoi. Nous on l'a fait exactement de la même manière, parce que les huit premiers tomes sont déjà écrits en fait.
Oui.
Donc on sait exactement où on va.
Ah,
mais
oui.
le tome 2 en fait on l'a fait en essayant de se défoncer de la même manière que sur le tome 1, en s'éclatant de la même manière, mais au moment où le tome l'album allait sortir, je me suis dit, ah, et si ça prend pas, quoi, au niveau du public, s'ils sont déçus, parce que souvent, ben, y a pas la magie de la découverte, donc, je me suis dit, peut-être que les gens vont moins aimer, et puis bon, ben, les premiers retours depuis la sortie étant bons, ça va mieux.
D'accord.
Ça va mieux.
Alors, le phénomène Tessa, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur, avec des statuettes, des rééditions, donc la troisième pour le tome 1, des tirages collector, tome 1, tome 2, un tirage 2B pour le tome 2.
Le tome 3.
Ouais. Pardon. On parle aussi d'un coffret pour les 4 premiers tomes. Alors, on sait tous, presque tous, la politique éditoriale de Soleil, qui part souvent d'une certaine démesure et une certaine multiplicité dans les éditions. Comment tu vois ça de ta fenêtre?
Alors, de ma fenêtre, c'est-à-dire que bah, à ce niveau-là, c'est nous qui gérons, en fait. Ils écoutent quand même ce qu'on a à dire. Le tirage spécial qu'il y a eu, c'est un tirage jumelé Boulevard des Bulles, Folle Image, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait deux tirages spéciaux différents.
Oui, tout à fait. Donc ça sera sous le même format que le tome, en fait.
Voilà, c'est pour ça qu'on justement on veut pas qu'il y ait une multiplication des tirages spéciaux et que à chaque fois qu'il y aura quelque chose, globalement, on n'a pas envie qu'il y ait un tirage spécial, par exemple album, un tirage spécial Soleil, un tirage spécial Boulevard des Bulles, Folle Image, par exemple. C'est-à-dire qu'il y en aura un, c'est point barre, quoi. Moi, à chaque fois, quand il y a quelque chose qui se passe, je me place en position de lecteur.
Oui, tout à fait.
Et même quand je fais l'album, hein, c'est-à-dire que je suis lecteur avant tout de bande dessinée depuis que je suis gamin, et je me pose tout simplement la question, qu'est-ce qui moi m'énerve et qu'est-ce qui moi me plaît.
Quel est ton assentiment sur le monde de la BD en général et aujourd'hui?
Je m'éclate dans ce monde-là. Bah, globalement, nous, on est une bande de potes et ce qui se passe autour, j'avoue que je fais pas spécialement attention, quoi. Mmh. Il y a des petites guéguerres entre un tel, des petits ceci, mais globalement, c'est exactement le même type de choses qui se passent dans tous les milieux, etc. Ça m'intéressait pas dans mes boulots d'avant, ça m'intéresse pas plus dans celui-là, là.
En tant que dessinateur, quelles sont tes inspirations?
Je suis tombé dans la BD depuis que j'étais tout petit avec ce qu'on appelle vulgairement le gros nez. Donc, vraiment la BD franco-belge pure et dure. Spirou et Fantasio, Gaston Lagaffe, Boulébile, etc. Bah, c'est Franquin à la base. Il y a Maester qui en fait partie aussi pour tout ce qui est mouvement, fichaille, etc. Vatine.
Bien sûr.
Il y a le duo Byrne-Austin pour les X-Men en fait de l'époque, donc des années 80, et Otomo en fait pour la partie japonaise, quoi.
D'accord.
En film, évidemment, bah évidemment déjà tout ce qui se fait en SF, j'ai grand, alors, aussi bien série télé que film de SF depuis que je suis né, globalement tout ce qui se fait en SF j'ai vu. J'ai payé mon tribut à Star Wars sur le tome 1, j'ai fait beaucoup de clins d'œil dedans. Il y en a moins dans le tome 2 et il y en aura pas beaucoup dans le tome 3. Dans le tome 3, par contre, il y aura justement en termes de littérature plein de clins d'œil en fait à Wells, Jules Verne, etc. Puis bah sinon tout ce qui était littérature SF, quoi, donc Asimov, Van Vogt, bah, sinon Lovecraft, etc. Voilà.
C'est quand même 5 mois de moins que la moyenne habituelle. Comment tu fais? Tu ne dors pas? Tu as une paire de bras supplémentaires? Tu as un frère jumeau que tu as dans ton placard?
Non. C'est, bah, en fait, j'ai la chance d'être organisé. Et j'ai la chance d'être rapide et surtout de pas me faire de nœuds au cerveau avec des questions existentielles. Non, ça va. Mais par contre, je suis vraiment pas un cas unique. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui sont rapides aussi, hein.
Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes dessinateurs qui voudraient se lancer dans le métier de la BD?
De pas vouloir être impatient. Premier conseil, au-delà du fait qu'il faille énormément travailler, la personne qui a envie de faire un album, simplement, c'est à elle de se regarder dans la glace et de se dire, est-ce que je suis capable globalement de passer tout mon temps libre à dessiner, à observer, à bosser et à bosser 50 heures par semaine sur mes planches sans même être sûr que l'album se fasse. À partir du moment où la personne se dit, ouais, c'est mon truc, c'est mon rêve de gosse, et ben là, go.
Alors à la fin de chaque proposition de Tessa, il y a une grande partie consacrée aux guests et aux fan art. Ouais. C'est ton idée?
Ouais, connaissant pas mal de dessinateurs et puis d'illustrateurs, j'ai ouvert cette rubrique-là. Et au bout d'un moment, vu que j'avais ça en arrière-pensée, quand j'ai vu qu'elle était bien remplie, ben on est venu avec chez Soleil en disant ah, ce serait bien d'avoir un petit cahier en plus. Par contre, il n'y en aura pas dans le tome 3.
Ah.
Il y en aura peut-être dans le tome 4, mais parce qu'en fait, on essaie un petit peu de jongler avec ce qui nous est donné en termes de com. Dans le tome 3, vu qu'on va avoir un 2B et un coffret, parce que c'est quand même un coût, mine de rien, pour l'éditeur d'avoir un cahier, on a préféré avoir le 2B et le coffret plutôt qu'un carnet de guest.
Est-ce que tu as des petits exclus à lâcher sur Tessa pour nos éditeurs?
Tous les persos qui ont été présentés dans le tome 1 vont petit à petit, à différents moments, prendre de plus en plus d'importance.
Est-ce que tu peux recommander nos auteurs un livre, un film et un disque?
Un livre, le premier qui me vient comme ça, parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps, La stratégie Ender, qui est un très bon livre de SF, de Orson Scott Card. Un disque, Dernier Round de Kulchen. Un film film, premier qui me vient, Fight Club. Voilà.
Écoute Loulou, je te remercie d'avoir consacré un peu de ton temps aux éditeurs de graphite.
Eh ben c'était my pleasure, comme on dit en anglais dans le texte.
On va se donner rendez-vous dans deux semaines au Festival BD de Compiègne, les 9 et 10 avril, où tu seras en compagnie de Nicolas Lemaitrick et Sébastien Lemiran. Mm-hmm. Pour les dédicaces.
Ouais.
Je te remercie encore.
Eh ben de rien.
Et à bientôt.
À bientôt.
Voilà, voilà, c'était l'interview de Loulou, l'auteur, enfin le dessinateur de Tessa, une excellente bande dessinée que je vous conseille de courir acheter. Olivier, tu veux rajouter un mot ?
Tout petit mot pour dire qu'on a coupé l'interview à peu près en deux, elle fait 23 minutes techniquement. Et
ouais,
si jamais vous voulez la voir, envoyez un mail quand ça marchera, bien sûr.
Sinon, elle sera sur le site, je pense, enfin elle sera accessible depuis sur le forum, a priori, qui est son site officiel dont on a donné l'adresse, voilà. Qu'on peut répéter.
Alors, le www.tessa.fr.st, il y a une redirection vers son forum, il faut s'inscrire pour aller.
Voilà. Très bien. Et donc, ouais, sur le forum, il y aura certainement un lien vers lequel. Enfin, on va lui filer le MP3 et il en fera ce qu'il voudra.
Tout
donc,
à fait.
Je pense qu'a priori, c'était sa première radio.
C'était sa première radio, effectivement.
Et donc, je pense qu'il en est suffisamment fier pour la mettre.
Partout.
Exactement. Tout de suite, on écoute un groupe qui me tient à cœur. Il s'agit de Death in Vegas. Death in Vegas, peut-être suivi si vous avez écouté la semaine dernière, a changé de label parce qu'il a fait un album qui était visiblement pas vraiment vendable au goût de leur ancien, dans leur ancienne maison de disques. Et donc, quelques mois après, c'est-à-dire l'album est sorti en octobre, le dernier album, le quatrième, et quelques mois après, en février, donc, est sorti un best-of, mais édité par l'ancienne maison de disques. Le best-of s'appelle Milk It, ce qui veut en fait bien dire traire la vache, quoi. Donc, on fait un peu de l'argent sur le dos de Death in Vegas, mais eux, ils étaient pas contre. Bon, je crois qu'ils ont pas eu trop leur mot à dire dans la sélection des morceaux. C'est un double best-of, donc il y a un disque best-of mais sur les trois premiers albums, qui est quand même très très bon. Si vous connaissez pas le groupe et que vous voulez le découvrir, c'est peut-être l'occasion, sans acheter la discographie complète, de le découvrir. Et il y a un deuxième disque qui a des remixes qui sont très très bons, qui sont aussi sortis en vinyle, et des inédits. Tout de suite on écoute un inédit qui s'appelle One More Time, qui est de l'époque, qui date de 99, qui était donc, a été enregistré en même temps que leur deuxième album qui s'appelle The Continuous Sessions, mais qui n'était pas sur le disque, avec featuring Bobby Gillespie, qui n'est autre que le chanteur de Primal Scream. Donc quand même on reste dans du gros anglais très 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 bon. Et c'est donc un inédit qui est sur le disque 2 du best-of. Le best-of s'appelle Milk It, il est sorti en février. Je conseille à tout le monde d'aller l'acheter tout de suite. Death in Vegas, One More Time, avec Bobby Gillespie sur Graphite 94.9. Vous écoutez Culture en Placard.
Culture en Placard, le lundi 20h21 sur...
Voilà, voilà, nous sommes de retour sur Graphite. C'était Death in Vegas avec Bobby Gillespie qui n'intervient qu'à la fin, vous l'avez pu l'entendre. Donc c'est featuring, mais il dit juste yeah, 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 baby, do it one more time. C'est marrant. Un inédit, donc sur le deuxième CD de leur best-of sorti le mois dernier qui s'appelle Milk It. Tout de suite, on retrouve Guillaume. Guillaume qui a raté le début de l'émission pour cause de train et qui va donc passer ses nerfs dans le billet d'humeur. C'est à toi, Guillaume.
Bon, passer ses nerfs, c'est assez rapidement dit, surtout que vous allez voir ce soir, j'ai décidé de prendre une victime facile, une victime simple. Et oui, c'est vrai que s'en prendre toujours à un sportif inintelligent, c'est toujours assez fastoche, surtout quand il s'agit d'un sportif qui a laissé tomber la coupe de cheveux. Donc vous aurez tous deviné que ce soir j'écris à cher Fabien, et oui, ce cher Fabien Barthez, qui nous a révélé ces derniers mois sa véritable nature. On pensait tous que avoir Bernard Lama comme remplaçant, ça n'avait que peu d'intérêt. Eh bien si, c'était révélateur, car nous avons pu tous découvrir que ce cher Fabien avait beaucoup de gènes de lama. Et oui, car il s'est développé, fastoche, hein, il s'est développé dans le crachat multiple. C'est-à-dire que si vous avez suivi l'actualité dernièrement, vous avez pu voir qu'il a, après avoir craché sur un joueur, craché sur un arbitre. C'est toujours un petit peu mauvais. Là-dessus, il quitte le football en crachant dans la soupe, en crachant sur le football et la FFF française. Le FFF, c'est pas pour la Funky Family Foundation ou quoi que ce soit.
Non, la FFF, c'est la Fédération Française de Funk, c'est pas la Funky Family.
Non, non,
je connais pas tes classiques. Le yaourt sur la bouche des filles.
Oui, bien sûr.
Non.
C'est aussi la Fédération Française de Football. Ah, je suis désolé,
tristement. Tu me l'apprends, effectivement.
Et donc, après avoir donc dit qu'il ne voulait pas, il s'est en plus engagé pour dire qu'il ne voulait pas aller non plus en Israël. Et quand un brave journaliste israélien est venu l'interviewer à ce sujet, il lui a limite craché dessus, mais je pense que les postillons ne comptent pas dans ce cas-là. Mmh. Pour lui
peut-être
dire
qu'il avait
que...
plus assez de salive à force de cracher partout.
Non, non, je pense qu'il en a encore.
Il y a encore des réserves insoupçonnées en termes de potentiel de nuisance.
Exactement. Surtout qu'on ne se rend pas bien compte de l'effet balistique d'un crachat, parce que par un effet mystérieux du média actuel,
Le simple crachat de Fabio Barthez sur un arbitre a entraîné un certain rehaussement des agressions et des violences physiques vis-à-vis des arbitres. Et ouais, si Fabien peut le faire, étant donné que c'est un quasi dieu vivant, il était en 98 dans l'équipe des Bleus qui a gagné la finale de Coupe du Monde, qui a réussi à arrêter des buts de Ronaldo, qui a lui a même sauté par-dessus un moment si j'ai bonne mémoire. Eh bien, ce quasi-dieu vivant peut cracher sur un arbitre. Donc, tout un chacun peut le faire. Y a-t-il un arbitre dans la salle? Non, je n'en vois pas. Dommage, j'aurais bien retiré ce petit glaçon.
Si vous êtes arbitre, vous pouvez gagner toujours le disque de... Je suis désolé, hein, il n'a pas été gagné. Donc, avant qu'on le fasse tourner à nos copains, ce serait bien qu'il y ait un auditeur honnête qui l'ait. Wax Taylor, on l'a écouté tout à l'heure. Kessera, le mini-album du hip-hop électronique façon DJ Shadow qui est très bon. Et si vous êtes arbitre aussi et que vous êtes scandalisé ou tout à fait d'accord par le billet de Guillaume, vous pouvez nous écrire... par email à cultureenplacard@graphite.fr.fm quand l'adresse marchera. Continuez à essayer jusqu'à ce que ça passe. Voilà. Excuse-moi, je t'ai interrompu.
Mais c'est pas grave. Donc je vais reprendre rapidement le fil de ma narration, qui était simplement que l'effet balistique d'un crachat est souvent sous-estimé, car dernièrement, si vous avez aussi suivi un peu l'actualité, vous avez pu voir que Frisk, de son nom, un arbitre suisse assez connu, assez renommé, parce qu'il a un visage particulier, on le connaît pour être arbitre dans les grandes compétitions, Ligue des Champions, Championnat d'Europe, Coupe du Monde. Eh bien, cet arbitre a déposé dernièrement sa démission parce que durant un match, il a reçu entre autres des projectiles et blessé gravement à la tête, suivi après la semaine de ce match de menaces de mort de la part des supporters. Comme quoi, tout est possible. Vous voulez influencer le football, n'hésitez pas, écrivez aux arbitres. Et de toute façon, la salive, elle tient sur la lettre.
Envoyez une balle de 5-5 avec leur nom gravé dessus. Croyez tout de suite, même Frisk, qui doit être déjà assez frais.
Tu me l'as volé.
Merde, je suis désolé, j'imaginais bien que t'en faisais une.
Ah, c'est affreux. Donc je me retrouve un petit peu à sec sur ce coup-là, même si je pense inviter...
Quoi, tu as cours de salive à force de parler de crachat.
Exactement, mais de toute façon, j'attends ce cher Fabien, si jamais il m'en veut un petit peu, ce que je peux comprendre, vu comme il est devenu sanguin ces derniers temps, c'est sûr qu'à force de bouffer de la vache folle chez McDo et d'en faire de la pub... Il a dû devenir légèrement affreux et agressif, son cerveau doit être devenu une bonne éponge. Eh bien, je peux l'attendre, j'ai mis mon bavoir, y a pas de problème, c'est quand il veut.
De toutes les manières, on parle d'un footballeur, donc je sais pas s'il avait vraiment besoin de bouffer de la vache folle pour... Enfin bon, ami footballeur...
Non, le seul gène qui est lié au gène du football, c'est le gène du « je chante mal » la Marseillaise.
Ah effectivement, ça c'est triste, tu m'en parlais l'autre jour, enfin on va pas rentrer dans les détails de nos vies privées, mais...
Oui, je connaissais un footballeur, un petit jeune qui faisait en junior, en espoir international en France, qui, après l'avoir entendu quelques fois chanter, je me suis dit que ça ne pouvait être que génétique. Parce qu'au début on pense qu'il fait exprès, ensuite on se rend compte qu'il fait tous les efforts possibles pour réussir à bien chanter, et c'est affreux.
En même temps, la critique est aisée, mais l'art est difficile.
Bien sûr. Mais tu sais que ne mal chanter, ce n'est pas forcément, ça ne limite pas forcément au niveau du showbiz. Hein. Regarde, il y a bien un chanteur de téléphone qui a percé malgré sa voix de casserole.
Et encore, téléphone, c'est un des exemples dans le haut du panier, on peut dire. Bien, à propos de chansons françaises. Transition. Nous écoutons un autre extrait. Je dis un autre parce qu'on en a écouté un excellent la semaine dernière. Un autre extrait du deuxième album de Java qui s'appelle Safari Croisière. Ça s'appelle Ce sera tout. Et si vous êtes amoureux de votre boulangère, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça.
Et après cet album, n'oubliez pas, on vous rejoint tout de suite après pour un spécial série B.
On va faire un blind test de samples extraits de ce film de série B. Ça promet d'être extrêmement drôle. Tout de suite, c'est Java sur Graphite 94.9. Allez, vous écoutez Graphite 94.9, Sculpture en placard,
si
on se met dans l'ambiance.
Sortir, ils vont mourir.
Attention.
Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John.
Attention, il va le tailler.
Et c'est souvent dans la gueule.
Bravo!
Yes!
Bien! Et donc c'était en direct sur Graphite, enfin en direct presque. C'était notre ami Chucky, je crois. Chuck Norris.
Chuck Norris.
Dans Delta Force 2. Un grand moment de cinéma qui immédiatement introduit. On parle de films de série B, voire de films de série C, même de films de série Z, je crois.
Mais laissons-nous Z, rassure-toi.
Allez, c'est à toi, Olivier.
Je crois que ça va être la chronique la plus drôle de la soirée.
Oh, t'es méchant! T'es méchant avec Guillaume et Clément, t'es dégueulasse!
La plus drôle, j'ai dit.
Bah oui. oui, justement.
Pourquoi on...
Bah non, je sais pas, c'est comme le but. Bon, bref, vas-y, continue.
Bref, on va parler donc de série B. On va faire un petit historique de la série B. Alors, il faut savoir qu'aux States, dans les années d'or 50-60, il y avait les fameux drive-in, tu vois, si...
Ouais, tout à fait.
Dans
ouais.
les films.
Les cinémas.
Et il y avait deux films, en général, qui étaient séparés par un dessin animé ou les actus.
Mm-hmm.
Et les deux films n'étaient pas forcément de même qualité. Il y avait un film de série A et un film de série B.
C'est de là que ça vient, c'est vraiment ça.
Ça vient de là.
Série A, série B, A, c'est quelque chose de... Ouais, d'accord.
Voilà. Et donc la série B, je suppose que tout le monde est tombé un jour sur les Jeudis de l'Angoisse ou dans une tristesse intellectuelle sur RTL9 et donc est tombé sur un film de série B. Alors le film de série B se reconnaît par une image un petit peu cheap, un petit peu granuleuse, par un doublage totalement fumeux.
C'est surtout le doublage, parce que nous on a des extraits en français qu'on vous fera écouter qui sont à mourir de rire, le doublage ajoute encore.
Ah ben, regarder un film de série B voire Z en VO, ça n'a aucun intérêt.
Complètement.
Il faut profiter de la VF, le fabuleux doubleur. Et donc là-dessus on rajoute un budget microscopique. On rajoute également des costumes, s'ils sont de plus mauvais goût, c'est mieux. Et c'est là-dedans qu'on retrouve généralement les films, les acteurs au rabais qui ne tournent plus du tout, les ex-acteurs porno à la rigueur, les ex... je sais pas si vous vous souvenez de Supercopter, il y avait le Eddie Borgnine.
Tu veux dire quelque chose, Clément ?
Supercopter, ça te déchire quand même.
Ouais, et ben,
c'est vraiment le truc.
Est l'acteur avec les cheveux gris est un pur acteur de série B, il faut le savoir.
C'est un milieu assez fermé.
C'est un milieu assez fermé.
À mon avis, on y rentre plus facilement qu'on en sort.
Effectivement. Et donc, ça c'était la série B, il y a la série Z. Donc vous prenez la série B, mais vous divisez le budget au moins par 10 000, ce qui fait que les effets spéciaux, c'est bien plus du bricolage. Et l'exemple le plus parlant, c'est quand même Ed Wood, fameux réalisateur qui n'a...
Arrête, Ed Wood, attends, en termes de... Enfin...
Non, en termes de série B, c'est le must.
Effectivement, mais bon, ça reste quand même du Tim Burton, quoi.
Non, non, je parle de réalisateur Ed Wood, parce que...
Ah, pardon, ouais, d'accord.
Tim Burton a fait un film à partir de la vie d'Ed Wood, qui a vraiment existé.
Ok, autant pour moi.
Et donc, on se souvient, Guillaume ?
Bah, Ed Wood, il est reconnu comme étant le pire cinéaste réalisateur de Hollywood et de la planète entière.
Ou de l'univers, tu peux
tout
le dire.
Tout ça était avant l'arrivée de Paul W.S. Anderson, évidemment.
Et puis aussi un réalisateur indien que je connais très 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 bien qui s'appelle Ishra, je sais plus quoi, parce que c'est imprononçable comme nom, qui fait des films quand même super.
Si mais le Bollywood,
c'est de la série Z indienne, c'est vraiment...
Non mais de toute manière, j'en profite pour dire un mot sur le cinéma indien, parce que enfin moi je m'intéresse un peu à ça, et par la force des choses, en fait, c'est par nature assez cheap, enfin, ils ont une conception du cinéma qui vise pas forcément au réalisme, c'est-à-dire que donc c'est du... Donc forcément...
Ouais, c'est plus de
l'entertainment. Décor en carton
pâte. Ouais, clairement, ouais, les couleurs saturées...
Et donc on va classifier les films de série BZ en deux catégories. Le nanar, donc le film mauvais mais auquel on se marre bien et qu'on a plaisir à regarder. Et le navet, qu'on a absolument aucun intérêt à regarder, où on s'ennuie à mourir en le regardant. Bon, chacun y grâce dans son petit mot pour ses nanars et ses navets. On va peut-être le faire maintenant, non ?
Moi, comme nanar, j'ai équilibrium. C'est-à-dire que, et je pense que pour Guillaume aussi, c'est-à-dire qu'à la fois, on est atterré par la pauvreté de ce film, et en même temps, pour une raison qui m'échappe, on y revient, parce qu'il y a deux, trois bonnes idées, etc., quoi. Et en fait, c'est paradoxal, quoi. C'est une relation vraiment passionnelle, on l'aime, on le déteste, mais c'est les deux mélangés, etc., oui. Et ça permet de voir Christian Bale, enfin, qui était très bon dans American Psycho, et qui est surtout excellent dans The Machinist, et voir qu'en fait, il a vachement du potentiel, parce que c'est pas un rôle facile pour réussir à prendre au sérieux un truc aussi improbable, quoi.
Effectivement.
Surtout qu'Équilibrium est programmé pour samedi prochain sur Canal+.
Ah bon ?
Et oui, mon grand.
Ah ouais, non, mais c'est-à-dire que je pensais que c'est quand même plus ancien que ça, donc je pensais que ça passerait déjà sur...
Non, c'était jamais diffusé avant, c'est la première diffusion, là.
Ah, donc si vous avez Canal+, samedi prochain, surtout que samedi prochain, bah, ça risque d'être le premier samedi du mois, donc on continue sur notre public masculin, vous avez moyen de nous faire une bonne soirée, l'un après l'autre. L'équilibre et le déséquilibre, enfin c'était... Bon, bien, continuons.
Je citais quand même mon nanar préféré, qui est plutôt dur à trouver, il s'agit de Batman de 1967.
Ah, bon, celui-là. Ah, les costumes, les costumes.
Avec le Batman bedonnant dans un collant moulant, je trouve que c'est absolument énorme. Et voilà, donc si vous le trouvez, foncez dessus, on se pisse dessus du début, mais jusqu'à la fin. Peut-être que si j'ai un petit peu de temps, je vous expliquerai une scène qui a mourir de rire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, blind test ?
Je sais pas, allez, blind test. Alors on a tout un tas d'extraits de série B. Bon, on va pas mentir, on l'a trouvé sur un excellent site qui s'appelle, moi je connaissais pas, c'est Olivier qui connaît, qui s'appelle Nanar.
www.nanarland.com.
Nanar sans D. N-A-N-A-R. Donc on commence tout de suite par la preuve que les films de série B font quand même preuve d'une logique absolument implacable.
Comme il supporte pas l'obscurité, restons à la lumière du jour et tout ira bien.
Voilà. Alors, ça vient d'où, ça?
C'est facile, c'est connu.
Sérieusement, vous pensez
Non, moi je sais pas.
Rapidement, je dirais si ça parle d'obscurité, de lumière, peut-être un vampire de Carpenter.
Non,
il est bon le vampire.
Voilà,
de Carpenter.
Même si voilà, justement, je trouvais ça affreux que vous l'ayez classé dans les nanars parce que ça reste un excellent film.
Ouais, mais c'est surtout le doublage aussi. Des fois, t'as des doublages qui sont pas flatteurs, quoi. Non, c'était Pitch Black. Bon, bien, on continue avec.
Sérieusement,
ah ouais, clairement, ouais. Arrête, je l'ai pas vu moi. Je sais même pas qui c'est.
Alors, moi,
pas
pour moi, c'est un film d'anthologie.
Je connais deux noms, quoi.
Non, mais c'est un très bon film, mais le doublage, par là, était clairement.
Ouais, non, mais c'était le côté genre. Vraiment la logique absolument implacable. Allez, on enchaîne avec l'histoire d'une demoiselle qui n'a vraiment pas eu de chance.
Notre contact dans le village est une indienne. Elle s'appelle Kikina Eskintela.
Elle est sûre? Ramon a d'abord tué son mari, puis il a assassiné son bébé. Et dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne et il a violé la fille. Alors c'est peut-être pas nécessaire de lui en parler, comme vous la verrez. C'est une jeune femme très sensible.
Oui, je m'en doute.
C'est magnifique. Alors ça, attention, non mais ça venait aussi de...
De Delta Force.
De Delta Force 2, très clairement. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, le plus mauvais, mais vraiment le plus mauvais doubleur du monde. Là, vous trouvez pas le film parce que c'est tellement de la série B que, a priori, même un grand amateur doit pas connaître, à part peut-être pour le doublage qui est donc inénarrable. Ah. Ça marche pas, mon... Ça marche pas.
Écoute, Philippe, pourquoi m'en vouloir? Pourquoi es-tu après moi?
Tu es un traître. Tu as vendu des informations aux Japonais. Des innocents sont morts, espèce d'affront.
Lui, il s'en sort, mais l'autre...
Con, Philippe. Écoute-moi. Tous les deux, on peut se faire du fric.
Roger, c'est pas la peine. Mon pays, jamais je le trahirai.
Tu me tues, Philippe. Mon frère prendra sa revanche. Les Japonais mettent ta tête après, Philippe.
Je m'excuse, petit con.
Mais non, c'est toi qui vas mourir, connard.
C'est lamentable.
C'est excellent, moi je trouve ça génial.
C'est quel film ça?
Alors ça c'est... Alors oui, rien que le nom. Hitman the Cobra. Ah oui, donc là très clairement rien que le nom annonce la couleur quoi. Alors ensuite là, il y a quelque chose qui vient de... Ah bon, on va l'écouter, Afghanistan Connection, bah j'ai dit le nom du film. Oh bah zut.
Bah, c'était dur à trouver.
Non mais alors je sais pas trop comment le lancer, bah on va pas le lancer, on va l'écouter direct.
Je l'ai gardé pour la rançon en cas de besoin, je ne voulais pas que vous soyez tenté.
Bien sûr. Qui mieux que le plus salaud des fils de putain peut savoir ce qui se passe dans la tête du fils de pute.
Vulgarité.
Oh mon dieu.
Vulgarité. Là ensuite on a de la métaphore de haut niveau. Écoutez ça.
Comme autrefois, Excalibur, l'épée du roi Arthur, prisonnière des rochers. Le père d'Anastasia, le professeur McQueen, prisonnier des Oméga, a été condamné à mort par le Congrès.
Non mais c'est énorme. Alors ça vient d'où, vous savez pas?
C'est Star Crash, non?
Non, c'est quoi, Stargate?
Non, Star Crash.
Star Crash, non, c'est le Chevalier du Monde Perdu. Oh, c'était Fred Williamson. Alors tout de suite, là, on en a une, attention, elle est assez difficile parce qu'il y a une erreur. Enfin, écoutez là, mais on grille pas tout de suite le truc marrant à la première écoute. Enfin, moi, ça a été mon cas, écoutez.
Fais un effort. Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer.
C'est-à-dire... Attendez, on va la remettre, hein, attention, personne voit. Bah, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu le truc?
Je suis insensible à la peur.
Non,
si tu pointes encore.
Mais non.
Fais un effort. Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer.
C'est-à-dire que le mec, sa patience a des limites. Donc déjà, elle a des limites. Mais avant même la limite de la patience, il faut pas exagérer déjà. Tu vois. Non, ça c'est très fort. Ça c'était dans Whitefire.
Ça laisse tout le monde s'en va.
Guillaume, tu veux dire un truc?
Moi, je suis paniqué parce que je pensais me connaître en série B et à part Delta Force 2, il y en a aucun que j'ai jamais vu ou connu, ne serait-ce que de nom. Quoi.
Mais ça va être l'occasion de les découvrir. Là, on a une liste de titres assez fournie. Allez, encore un.
Si tu pointes encore.
Ah, il est bon celui-là.
Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Voilà, donc de la menace de violence, très clairement. Ça dépend de la taille du Tupperware aussi. Et là, vous avez reconnu très clairement Chuck Norris, quoi. C'est quoi, Invasion USA, c'est ça?
Il me semble, oui.
Alors, celle-ci, la demoiselle.
Je suis insensible à la peur. Mais les mutants me donnent la chair de poule.
La pauvre, elle sort de X-Men le 1 ou
Non, il me semble que ça vient de Miami Golem.
Tout à fait.
Bravo.
Voilà, j'ai alors là, un grand classique. Là, franchement, vous allez reconnaître rien qu'au doublage dont on s'est moqué un certain nombre d'années, même dans des émissions grand public qui passent sur la 4 avec des poupées en latex. Attention.
En arrivant ce soir. Je savais pas trop ce qui m'attendait.
Когда я вышел этим вечером на этот ring.
Avec la traduction, hein, évidemment.
Je sentais que l'état de genre me hissait.
Ouais.
Mais je savais pas comment il fallait prendre ça, alors Je crois que dans le doute, je vous ai haï aussi.
Les philosophes,
les hommes n'oublient rien.
Attention, on a une autre là. Oui, c'est la décoratrice, c'est ça, je crois.
Oui, tout à fait.
Ah, bah zut, je l'ai perdu.
Général, vous ne...
Non.
Les hommes n'oublient rien. Voilà. Ils choisissent de ne pas se rappeler.
Tu es décoratrice et non psychanalyste.
C'est...
Oh, la remise en place qu'elle lui fait.
Clairement, attends, écoute.
La même chose.
C'est la même chose. Surtout, c'est la même chose qui est bon, quoi.
Donc finalement, c'est la peine de faire bac plus 10 pour faire psychanalyste, hein, autant faire décoratrice.
Exactement. Ouais. Même si, en fin de compte, juste avant ça, on avait le petit passage de Rocky. Je tombe bien, je pense. Enfin, je me trompe pas.
Tout à fait. C'était Rocky, c'était évident.
Mais lequel dit,
le 4, je crois.
Ah, le 4, ouais.
Un autre extrait du même film.
Général, vous ne voulez donc pas comprendre? Il y a 35 ans, ces créatures ont essayé de s'emparer du monde. Elles furent impitoyables et ne montrèrent aucune pitié.
C'est une logique implacable, effectivement.
Et alors, vous savez, en plus, vous savez d'où ça vient ? C'est War of the Worlds. Donc, c'est-à-dire, c'est un remake de la Guerre des Mondes.
Mais alors, donc, dans ce cas-là, 35 ans après la Guerre des Mondes, en fin de compte, c'est.
Ouais, ça doit être ça. Il y a des trucs, mais c'est quand même assez intéressant de voir que. Bon, bref. Ah, il y en a une. Alors, oui, celle-ci. Du racolage interdit par Sarkozy.
Hé, soldat.
Oh, putain de merde.
Tu veux peut-être que je te la secoue ? Qu'est-ce que t'as dans le citron, soldat ? Des nouilles, hein ?
Bon, alors si ça date pas clairement les années 70, j'aime mieux rien.
Je sais pas, c'est quoi, Le Chevalier du Monde Perdu, hein, avec un titre. Mais alors, faut penser aux gens qui font, ouais, tout à fait, mais faut penser aux gens qui font ce métier, quoi. J'allais doubler ça. C'est vraiment alimentaire, j'imagine, quoi. Ah, non, là, on en a un très 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 beau. Alors lui, il est à sampler, il est bien long en plus, mais il est vraiment délicieux.
Dites-moi d'abord où vous en êtes dans l'interprétation de ce langage de Martien.
Je crois avoir pu identifier quelques sons très significatifs. À mon avis, ils proviennent d'une langue très ancienne dont les mots représentent l'expression pure et simple du subconscient. Ce mot, par exemple, veut dire la terre. Et celui-là exprime l'univers. Quant à cet autre, il signifie la force.
Et alors, les racines ?
Les racines appartiennent à un alphabet extraterrestre. Une sorte de langage basé à la fois sur des sons et des images de l'esprit.
Et alors, comment en faites-vous une science exacte ?
C'en est une.
Pour le moment, je trouve que ça ressemble plutôt à un vieux film sur le spiritualisme.
Et pourquoi pas ?
Si je comprends bien, selon vous et d'après votre théorie, cette petite expérience chromosomique et révolutionnaire mérite d'être enregistrée en cassette vidéo pour être classée dans les histoires de spiritisme. Vous ne voyez aucune autre explication ?
La réalité terrestre se diffère de l'au-delà.
La réalité terrestre se diffère de l'au-delà.
Mais oui, mais ça, on a toujours tendance à l'oublier. Allez, un petit dernier de notre ami récurrent dans les films de série B pour la route. Allez.
Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, connard ?
Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
Oh là 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 là, il y a moyen de faire mais une quinzaine de bandes annonces pour Culture en placard rien qu'avec ces extraits, quoi. Donc voilà, vous les retrouvez sur www.nanarland.com. On pourrait continuer à délirer longtemps, mais là on a très 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 peu de temps, donc on va très vite écouter un excellentissime, mais tous nos disques sont excellents, donc j'ai l'impression de me répéter, disque. C'est The Servant, ils ont explosé l'année dernière avec leur dernier album, mais là on écoute un truc qui est en fait leur premier album, c'est deux mini albums dans un double boîtier qui est sorti, ils ont été enregistrés en 99 et 2000, donc c'est sorti en 2000. C'est de la très bonne Britpop, très efficace, et on écoute un titre qui s'appelle With the Invisible, qui est extrait donc du double mini, deux mini-albums Mathematics With the Invisible.
Culture en placard, le lundi 20h-21h sur Graphite.
Voilà, nous sommes de retour sur Graphite 96.9, on vient d'écouter The Servant avec With the Invisible, un excellent disque qui date. C'est leur premier album, premier mini-album, double mini-album Mathematics With the Invisible. Tout de suite, c'est la chronique télévision pour les amateurs de télévision. Je vais enfin ramener ma télé sur Compiègne, donc je vais pouvoir m'essayer à ce genre peut-être un jour. La dernière fois, c'était Olivier, cette fois-ci, c'est Guillaume pour le billet télé.
Exactement. Alors tout de suite, je vais faire un petit retour sur la semaine dernière où Olivier nous avait annoncé un duel au sommet entre Bad Boys et Rush Hour. Chacun sur France 2 et TF1. Et en fait, j'ai récupéré les résultats de médiamétrie. Et en fin de compte, nos deux champions en titre se sont fait battre par un outsider que l'on n'attendait pas. Parce qu'ils ont été flingués par Louis la Brocante sur France 3.
Sans déconner.
Les écrase avec 7,9 millions d'auditeurs.
On parle en pourcentage de part de marché, ça fait combien ?
Oula, tu m'en demandes beaucoup. Parce qu'il faut partir du principe que déjà, le soir, la moitié de la France a décidé de ne pas regarder sa télé. Ce qui est bon signe en soi. Et que. à eux trois, ils réunissent pour lui la brocante 7,9 millions de téléspectateurs, Rush Hour 5,2 millions et Bad Boys 4,6 millions. Ce qui fait quand même un bon paquet de gens. Mais je suis assez heureux de voir qu'un petit vieux brocanteur du fin fond de l'Ardèche peut battre Will Smith
et Chris Tucker et Jackie Chan
et tout le paquet. Non, si pour ceux qui comme nous n'ont pas été au Salon du Livre et qui ne regardent que peu la télé, vous avez raté à Paris, dans les animateurs télé qui présentent des livres, nous avions donc un jackpot de Annie Lemoine, Emmanuel de Brontès, Jean-Marc Morandini, Isabelle Giordano, Cyril Lignac, vous devez le connaître, c'était le petit cuistot qui faisait une émission sur la 6, Frédéric Mitterrand, Hervé Claude, François de Closet et Isabelle Alonso, qui tous présentaient un livre qui devait certainement être du plus haut niveau.
Ouais, le télé se regarde le nombril, quoi.
Exactement, comme toujours. Sinon, pour la semaine à venir, alors il n'y avait pas grand chose, ce qui a fait que Olivier ne s'est pas trop branché sur le billet télé. Moi j'ai trouvé 2-3 trucs, avec en particulier un petit jackpot sur Arte pour le week-end prochain. Là, samedi à 22h35 sur Arte, il y a une adaptation sur scène de Wolf de Mozart avec une mise en scène de Platel. Moi j'ai vu des images, ça a l'air de déchirer fort. Et le lendemain, encore sur Arte, à 20h40, vous pourrez voir un grand classique du cinéma anglais qui s'appelle Princess Bride, qui est un film plus comique tumeur. Sans oublier qu'en fait, il ne faut pas oublier que cette semaine, on risque d'avoir un événement majeur, à savoir que Rainier risque de mourir dans la nuit du mardi au mercredi.
Guillaume a une théorie.
Non, j'ai plus qu'une théorie, une exclue.
Il y a un faisceau de présomption.
J'ai l'information que la famille princière a réservé l'hôtel, non, plutôt pas l'hôtel, l'aéroport de Nice en entier pour la journée de mercredi. Donc ils ont l'intention certainement de faire venir pas mal de monde mercredi. À mon avis, si c'est pas pour un enterrement, je sais pas trop ce qu'ils fêtent.
Mais ouais, mais donc ils l'enterreraient mercredi, mais ça veut dire qu'il va peut-être mourir avant.
Peut-être dans la nuit de mardi, toi, journal de 20h mardi, hop, là.
Ouais, mais il y a toujours un petit délai entre la mort.
Non, tu peux faire vite, hein, surtout dans ces cas-là, il faut faire.
Des fois, il l'enterre alors qu'il est même pas fini, quoi.
Voilà, et sinon, pour bien plomber notre émission de la semaine prochaine, annonce que lundi prochain, au même moment que notre émission, vous aurez sur la 2 une sublime émission, certainement de très haut niveau, qui est le plus grand français de tous les temps. Donc je vous rappellerai tout simplement qu'en tête, pour l'instant, on se demande si ça va être
Johnny.
Coluche, Johnny ou alors Charles de Gaulle qui vont gagner. Mais ce qui me rassure, c'est que Michel Drucker est arrivé 68e, donc tout n'est pas perdu. Sinon, on peut trouver sur La 6 un film qui va nous faire vraiment du mal, je pense, c'est La Cité de la Peur, des nuls.
Et tout le monde l'a vu, c'est bon.
Tout le monde l'a vu, donc ça devrait aller. Et sinon, dédicace personnelle, encore sur Arte. Vous comprendrez que c'est pour moi la meilleure chaîne de télé qu'on puisse obtenir.
On la joue intellectuelle.
Un film s'appelle No Man's Land, qui est un film serbo-bosniaque-herzégovie-franco-dramatique. Qui parle d'un sur le front en 93 pendant la pleine guerre bosnie-herzégovine d'un soldat bosniaque qui dont l'unité entière est massacrée, qui est rescapé, et c'est une véritable et belle dénonciation de l'absurdité et de l'horreur de cette guerre.
Ah oui, il y a aussi Warriors dans le registre, qui est très très bien. Warriors, un film fiction mais adapté d'histoire véridique de la BBC. En tout, c'est donc ça fait plusieurs épisodes, mais en tout je crois que ça dure plus de 3 heures. Moi je l'avais vu quand il était la première diffusion française en VO sur Arte, et c'est l'histoire de militaires anglais qui signent, parce qu'il y avait une bonne prime, qui signent pour être casque bleu, et qui s'aperçoivent en fait qu'ils sont simplement là pour être témoins des horreurs et qu'ils peuvent absolument pas intervenir. Bien, donc là, ambiance particulièrement joyeuse dans le studio. On va parler de mon coup de cœur de la semaine, voire de la quinzaine, puisque pour des questions de temps, on n'a pas réussi à en parler la semaine dernière. Mon coup de cœur disque, mon coup de cœur scud de la semaine, c'est le le nouveau Daft Punk, extrêmement attendu, qui s'appelle Human After All. L'année 2004-2005, l'année dans laquelle on est, se présente comme particulièrement agréable pour le fan lambda de musique électronique. En août dernier, on a eu droit au comeback de Prodigy après 7 ans d'album, après 7 ans d'absence, n'importe quoi, avec un album qui malheureusement a peut-être pas eu le succès qu'il mérite. À l'automne, c'est au tour de Fatboy Slim de se renouveler avec un disque assez riche, blindé de collaborations, qui est très excellent. On mentionnera à la même période le suicide musical de Death in Vegas avec leur Satan Circus. On en a parlé la semaine dernière, ça leur a valu de se faire virer de leur label et de perdre une grande partie de leur public, puisqu'ils s'attendaient à du My Bloody Valentine, ils sont tombés sur du Kraftwerk. J'aurai l'occasion, j'imagine, d'en revenir. Fin janvier, c'est les Chemical Brothers, qu'on a écouté tout à l'heure, qui nous sortent un nouveau bijou de virtuosité, prouvant qu'ils restent les maîtres du genre. On mentionnera aussi un nouveau Garnier, hein, qu'on appelle dans les milieux le Baladur de la techno, qui est pour le moins surprenant, j'essaierai d'en parler la semaine prochaine. Et bien sûr, le Cube du Peuple de l'Herbe, qui reste assez fidèle à lui-même. ou à eux-mêmes, parce qu'ils ont quatre. Alors le peuple ou plusieurs, oui.
Surtout pour le peuple de l'herbe, je sais pas si vous avez pu voir, j'ai vu sur Trax un événement assez intéressant, c'est qu'ils sont passés en concert avec les Puppet Mustaze.
Mm-hmm. Ils sont en tournée là, ils se sont fait faucher une trompette. Vous pouvez suivre la tournée sur www.20, alors 20, donc 20 en chiffres, 6six.fr, / le peuple de l'herbe tout attaché. Ils ont un blog en ligne et donc vous pouvez suivre des nouvelles de la tournée. Bref, bon, lundi dernier. Donc lundi il y a deux semaines, duel de tête de gondole chez les disquaires, sortie simultanée de Hôtel, du chauve végétalien au nom de baleine, vous aurez reconnu Moby, et du très attendu Human After All de Daft Punk. Le titre de l'album est bien entendu un clin d'œil au goût prononcé du duo pour les casques en plastique qu'on dirait sortis de séries japonaises 80s de série B. Bref, avant la sortie du disque, le public appréhendait, donc moi, appréhendait pas mal. Il faut dire que l'album avait été produit en 6 semaines seulement, donc à raison de, j'ai la pochette sous les yeux, 10 titres, bah vous faites votre calcul et vous voyez le nombre de jours, ça fait 3-4 jours pour un titre, et que il y a eu des fuites internet qui se révélaient extrêmement décevantes, au point qu'une rumeur, qu'on peut certainement attribuer au Daft même, puisqu'on sait à quel point ils savent maîtriser le buzz et la communication, avançait que les MP3 trouvables sur les peer-to-peer étaient en fait des démos inachevées. Malheureusement, ce n'était pas le cas. L'album a énormément déçu. Quand on voit à quel point la production est minimaliste, les morceaux répétitifs et se ressemblant les uns les autres, on pourra parler du son de vocodeur Daft Punkien qu'on retrouve sur presque tous les morceaux, réglé toujours de la même façon, on se dit qu'on sent un peu le bâclage en 6 semaines. Ajoutez à cela que les dernières sorties des Daft Punk après l'énorme Discovery en 2000, enfin quand je dis énorme, c'est au moins commercialement, étaient donc un live de 97 sorti d'un tiroir et une compilation de remix qui était déjà disponible sur leur Daft Club sur internet. On se dit que visiblement Thomas et Guy Manuel ont à la fois un gros poil dans la main et de gros besoins financiers. À mon avis, ça doit être l'achat et l'entretien des costumes de repos sur mesure. Ça coûte un petit peu cher. Bon, pour ma part, j'ai beaucoup d'indulgence pour ce disque, même si je ne suis pas un fan de la première heure. Les Daft ont toujours eu un style assez répétitif et dépouillé. Personnellement, j'ai préféré la Hard House de Homework, donc le premier album en 97, ou à la suite de clin d'œil 80s de Discovery en 2000. Discovery avec ses clips d'animation japonaise, qu'au grand dam d'Olivier, je conchis allègrement. Bon, à noter que pour la sortie du disque, on retrouve Interstellar 555 sur les rayonnages en prix réduit. Moi, je ne vous conseillerais que trop d'aller fouiller un peu plus dans les bacs pour acheter Daft, D.A.F.T, le premier DVD qui regroupe les clips de la période Homework, qui eux ont des vrais réalisateurs, donc entre autres Spike Jonze et Michel Gondry. Là, Olivier, je coupe ton micro pour pas que tu tentes de répondre. Bien, bon, mais revenons à l'album. Oui, en fait, il donne l'impression d'être bâclé. Oui, le son du vocodeur n'a rien à envier au meilleur des FL65. Oui, les morceaux sont construits en collant des boucles de 4 mesures, mais quand même, on finit par se prendre au jeu et par hocher la tête aux mélodies faciles mais entraînantes. À chacun donc de se faire un avis. Si vous n'aimez pas Daft Punk, je doute que ce disque vous fera changer d'avis. C'est ça fait deux fois avis. On reconnaît bien leur composition caractéristique et cette fois-ci, pour ceux qui aiment, on est exactement à mi-chemin entre Homework et Discovery, donc un peu hard house, mais aussi un peu côté vocodeur 80s, quoi. On se demandera quand même pourquoi est-ce qu'ils ont pas pris plus de temps pour peaufiner l'album. On a un peu l'impression qu'ils sont tellement pris par leur projet underground parallèle, puisque Thomas Bangalter a son label, Roulé, Guy Manuel de Homme Cristo, le sien, avec Scratché et l'autre label Cri d'Amour, et son projet Le Nightclub. Thomas Bangalter, il était aussi dans Stardust et dans un truc pour la BO d'Irréversible qui est très très bon. Bref, on a l'impression que c'est que du bout des lèvres qu'ils consentent à prendre 6 semaines royalement pour prendre un disque inégal pour le grand public. Parce qu'en fait, c'est surtout le public international, parce que les Daft Punk, curieusement, visiblement, les Français, ils s'en foutent. Quand ils font des lives, c'est à l'étranger, hein. Bref, j'ai pas eu la chance d'entendre le Nightclub. Donc Nightclub, c'est avec un K, donc comme Chevalier, donc le projet solo de Guy Manuel de Homme Cristo. Mais on en dit beaucoup de bien. Toujours est-il que si vous aimez le vrai Daft Punk, celui de la première période, vous vous rendrez compte que votre argent serait peut-être mieux utilisé en achetant les Tracks on the Rocks de Thomas Bangalter. Ces deux hippies sur Roulé, qui datent respectivement de 95 et 98, et où, époque oblige, il ne se repose pas sur ses lauriers et son vocodeur Korg. À noter pour la sortie, visiblement la pléthore de sorties, donc entre le peuple de l'herbe, le dernier Garnier, le Moby et le Daft Punk, plein de choses qui ressortent à prix réduit, donc il y a moyen de choper tous les anciens Moby à 9,90€ et à la Fnac et chez Virgin. Enfin bon, visiblement les maisons de soit, ça dépend des maisons de disques, donc c'est pas les distributeurs qui baissent les prix. Et il y a pas mal de disques donc à 9,90€, je me souviens plus comment s'appelle l'opération, mais bref, et notamment l'excellentissime album de mix des Too Many DJs. Si vous connaissez pas encore, c'est l'occasion de le découvrir à très peu de frais et dans la légalité. Donc voilà, on se quitte en écoutant un extrait de Daft Punk. C'était Culture en Placard, l'émission culturelle de Graphite. Vous pouvez nous envoyer vos réactions à Culture en Placard, tout attaché, @graphite, graphite.fr.fm. On se quitte donc avec Daft Punk, un extrait de leur dernier album qui, j'en ai dit beaucoup de mal, mais il est quand même pas mal. Extrait. extrait diable. Que se passe-t-il? Il est où mon extrait? Voilà, l'extrait s'appelle Steam Machine sur Graphite. On se retrouve la semaine prochaine où on fera, on fait une spéciale Japon et on parlera aussi du festival de BD de Compiègne les 9 et 10 avril prochains. Voilà, c'est fini. Passez une excellente semaine. Elle est courte mais intense.